Merci beaucoup, cher Président, d'abord de votre présence et puis pour ces propos très, très encourageants pour nous tous, les jeunes et les vieux. Moi aussi, je suis très, très heureux d'être ici. C'est mon premier cours PSL depuis que j'ai été nommé professeur. Donc, je suis très heureux que ça se passe pour les étudiants de première année du CPES. D'abord, bravo d'avoir été admis. Et aussi parce que je crois, comme Alain Fuchs, que l'université consiste à ne pas fonctionner dans des silos, on est enfermé, où les étudiants qui sont dans ce qu'on appelle désormais le collège et les chercheurs des laboratoires vivent dans deux mondes différents. Pas du tout, je pense qu'il est très important qu'il y ait de la fluidité et des passerelles. Alors, bien évidemment, je ne suppose pas que vous êtes tous capables de déchiffrer les textes en arabe médiéval comme ça. Ce n'est pas le but de l'opération, moi non plus d'ailleurs, assurez-vous, ni que vous avez l'expérience de terrain que peut avoir quelqu'un qui a 60 ans. Mais au contraire, je pense qu'il est important d'arriver à communiquer les choses et à vous donner à la fois une idée de ce que c'est que la recherche telle qu'elle se produit. Mais vous n'êtes pas forcé de devenir des chercheurs, vous pouvez faire autre chose de votre vie, mais c'est important, je crois, pour votre développement intellectuel et pour la façon dont on a conçu les CPES, hein, dans la manière très, à la fois pluraliste et exigeante dont nous essayons de réinventer ensemble notre enseignement supérieur qui est la clé de l'avenir de notre pays. J'enfonce des portes ouvertes, mais malheureusement, c'est vrai. Et d'autre part, donc, j'espère aussi pouvoir vous donner le goût de ce genre d'études. Alors peut-être pas à 150, hein, on ne va pas pouvoir en prendre 150 personnes dans la chaire Moyen-Orient, mais si ce sont des choses qui vous intéressent, ben c'est le moment de venir voir Damien Savreau, que j'ai le plaisir de vous présenter ici, qui démarre une très belle thèse et qui est également mon assistant à la chaire Moyen-Orient, tient à votre disposition le programme du cours que je commence lundi sur les crises du Moyen-Orient. Donc c'est une variation un peu plus longue sur ce que vous allez entendre aujourd'hui. Ici à côté, à Normalsup, il y a encore quelques places très chères. On est en Orient, donc il faut graisser la patte de Damien pour s'inscrire. Mais donc c'est possible. Et puis, ça peut être aussi l'occasion, ensuite, par exemple, de passer une troisième année à l'étranger, dans un pays de la région. Ça peut être aussi l'occasion, et je vous le présente également ici, debout à côté de David, de faire la connaissance, certains d'entre vous le connaissent déjà, du professeur Jean-Pierre Milelli, qui est agrégé de langue arabe et l'un des tout meilleurs arabisants français, et qui a accepté de nous rejoindre à la chaire également, qui donne déjà des enseignements à un certain nombre d'entre vous, peut-être de deuxième et troisième année, peut-être pas parmi vous dans cette salle, mais qui, avec nous, va, pour ceux qui le désirent, contribuer à vous apporter des accès à cet univers. Et si vous le désirez, vous pouvez commencer à faire cette année ou l'année prochaine de l'arabe avec lui ou autre chose, et ensuite vous mettre dans la tête comme ça d'aller passer un an dans la région et puis revenir, faire un master, et puis après, vogue l'aventure. Voilà. Donc c'est aussi dans une perspective d'initiation que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier David de Schreiber, que j'ai connu, qui était plus jeune qu'eux, je crois. Oui, je l'ai connu quand il était encore, donc on pouvait être plus jeune que vous. Et, mais moi, j'avais votre âge, ou à peine, enfin comme ça, donc c'était vraiment tout petit. Voilà, donc, voilà, moi ça y est, Damien a déjà anticipé. Alors, je vais vous parler pendant, je n'ai pas de montre, il n'y a pas de cadre, donc on a jusqu'à quelle heure, 6 heures, c'est ça ? 6 heures. D'accord, très bien. Enfin, je ne parlerai pas plus de 3 quarts d'heure. Alors, donc, je vais vous parler des crises de Méditerranée et du Moyen-Orient aujourd'hui. Aujourd'hui, en automne, début d'automne 2018, dans une situation très particulière, il y a un an, la semaine dans 15 jours, c'est-à-dire le 17 octobre 2017, Raqqa, la capitale de l'État islamique, entre guillemets, autoproclamé de Daesh, et qui était la capitale du terrorisme, d'où était organisée La plupart des attentats qui ont été, ou coordonnés en tout cas, la plupart des attentats qui ont frappé la France entre 2015 et 2016 surtout, tombaient sous la pression conjointe des bombardements des armées occidentales, des aviations occidentales et des forces kurdes, de Kurdes de Syrie au sol. Et aujourd'hui, en Syrie, ce que vous avez peut-être vu dans les journaux, là, ce qu'on appelait la zone de désescalade d'Idlib, qui est une ville au nord-ouest de la Syrie, vous verrez ça sur les cartes tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, est en passe d'être bombardée à son tour, soit par l'aviation russe, soit d'être attaquée par les supplétifs iraniens ou chiites de l'armée de Bachar el-Assad. Tout ça posant de très gros problèmes. Qu'est-ce qui va se passer si ces rebelles sont bombardés, s'il y a un drame humanitaire? La Turquie va être obligée d'ouvrir sa frontière, parce que c'est sur la frontière turque. Il y a déjà 3 millions de réfugiés syriens en Turquie. La Turquie, qui est dans une situation économique très mauvaise en ce moment, j'étais à Istanbul au mois d'avril, on donnait 5 livres turcs pour 1 euro. J'y étais le week-end dernier, c'est 7,5 pour 1 euro, donc 25% de chute en quelques mois, c'est beaucoup, ne veut pas se le permettre. Et en plus, parmi les gens qui sont à Idlib, outre les rebelles soutenus autrefois par l'Occident, il y a aussi un certain nombre de djihadistes qui ne demandent pas mieux que de s'infiltrer à travers la frontière syro-turque et de venir, qui sait, recommencer à faire des attentats en France. Il y a environ au moins 750 Français ou de gens qui viennent de France dans la poche d'Idlib aujourd'hui et qui ne sont pas des anges. Donc, comment est-ce qu'on essaye de comprendre tout ça? Comment est-ce qu'on peut, quand on est un honnête homme ou une honnête femme, un journaliste, c'est pas toujours honnête, ou un universitaire, toujours beaucoup plus honnête, comment est-ce qu'on peut essayer de faire l'état de cette situation, de la comprendre, de dépasser le stade de ce qu'on appellerait en philosophie la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune, et d'inscrire ces phénomènes en perspective pour d'abord essayer de se faire une idée, de raisonner dessus, et puis quand on est dans une position de décision, de prendre les arbitrages nécessaires, que ce soit de décision économique, par exemple, vous devez arbitrer des investissements, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez vous orienter dans la région ou pas, comment vous pouvez évaluer les demandes par rapport aux risques, par exemple. Et vous savez qu'il y a un grand cimentier français, Lafarge, qui a décidé de rester coûte que coûte en Syrie et qui a fini par être incriminé. Aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer, c'est enregistré, mais le procès aura lieu, et qui a été incriminé pour avoir, d'une certaine manière, indirectement financé des groupes classés comme terroristes, donc ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut faire des arbitrages militaires, si on est militaire, des arbitrages politiques? Est-ce qu'il faut, par exemple, ce qu'a fait la France récemment, confier aux Russes d'apporter l'aide humanitaire française à cette région, ou non? Est-ce qu'on considère que ce n'est pas acceptable? Tout ça, pour le savoir, il faut se faire un tableau de pensée, une représentation qui soit aussi exact que possible. Alors, ça fait 40 ans maintenant à peu près que je travaille dans cette région. Il y a exactement 40 ans, justement, un peu plus, 77-78, j'étais à l'Institut français de Damas. Je vous ai fait passer le petit texte qui commence le livre qui sort dans 15 jours, « Sortir du chaos ». Et depuis ce temps-là, donc, j'ai passé une grande partie de ma vie, soit dans la région, soit dans les banlieues populaires françaises, à étudier le phénomène de développement de ce qu'on appelle, d'autres et moi, les mouvements islamistes, c'est-à-dire les mouvements qui inscrivent dans leur vision du politique la primauté du religieux, qui considèrent que c'est à partir des catégories de pensée qui figure dans le texte sacré que l'on doit penser le monde, on doit penser les relations entre les hommes et les femmes, le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport au pouvoir politique, le regard que l'on porte sur les autres qui sont musulmans mais d'une autre secte, chiites contre sunnites, sunnites contre chiites, ou bien qui ne sont pas musulmans, etc. Et tout ça, bien sûr, ça pose d'immenses problèmes. ça soulève d'immenses questions qui nécessitent qu'on dispose du background, de l'arrière-plan intellectuel, culturel, linguistique, géographique, etc., pour arriver à le déchiffrer. Alors, pour essayer de rendre simple cette question extrêmement compliquée, je vais commencer, puisqu'on m'a rattaché au département de géographie de l'École normale supérieure dans ma fin de carrière, par vous montrer des cartes que j'ai fait faire pour le livre par un de nos collègues, Fabrice Ballanche, qui est maître de conférence à l'Université Lyon 2 et qui a passé 3 ans aux États-Unis dans différents think tanks pour se frotter aussi à la culture américaine, la culture politique américaine, et essayer de comprendre comment il pensait ce phénomène. Cette première carte que vous avez ici, c'est donc le Moyen-Orient en 1973. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'était né à cette époque-là, que vous étiez encore quelque part dans le ciel, quelque chose que vos parents, qui ne s'étaient peut-être pas encore rencontrés, n'avaient pas encore conçu. Mais il se passait déjà le monde, malheureusement, existait déjà, lui. Et en 1973, donc, au Moyen-Orient, en octobre 73, se déroule une guerre qu'on appelle, dans un esprit laïque, la guerre d'octobre 73, mais qui était surtout connue comme guerre du Kippour ou guerre du Ramadan. Alors le Kippour, c'est le jeûne rituel juif, et donc qui va affecter particulièrement l'État d'Israël, et pendant la période du jeûne de Kippour, l'État d'Israël est quasiment à l'arrêt, disons tout le monde est en vacances, une très faible vigilance, donc tout à fait propice à un effet de surprise militaire d'un adversaire, et du Ramadan parce que le Kippour correspondait au mois de jeûne, le mois était beaucoup plus long que le Kippour, le mois de jeûne sacré du Ramadan, pendant lequel, en principe, les musulmans pieux s'abstiennent de toute nourriture, de toute boisson entre le lever et le coucher du soleil. Alors, même si en octobre il fait déjà un peu moins chaud, il fait encore assez chaud, et aller se battre en n'ayant rien à boire et rien à manger entre le lever et le coucher du soleil, c'est quand même extrêmement difficile. Et ça peut même être la certitude de la défaite plutôt que de la victoire. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Pourquoi cette guerre? Alors, la guerre de 73, elle s'explique parce qu'il y a eu une autre guerre, il y a eu plein d'autres, mais l'autre guerre en particulier, en 1967, en juin 67, j'avais 12 ans, donc j'étais plus jeune que vous à l'époque, la guerre de juin 67, donc qu'on appelle la guerre des 6 jours, est une guerre pendant laquelle, pour vous la faire très courte, Israël, encerclé par les États arabes, lance une offensive victorieuse et conquiert ces territoires qui sont ici assurés, qu'on appelle territoires occupés, qui sont la péninsule du Sinaï, qui est là. Je vais essayer de caler mon coude. Voilà, la Cisjordanie, qui est ici, qu'on appelle West Bank aussi. Puis là, on ne voit pas très bien la bande de Gaza, qui est tout petit. Très peuplée, mais toute petite. Donc ces territoires sont occupés par Israël en 1967. Et les pays arabes, l'Égypte de Nasser à l'époque en particulier, la Jordanie du roi Hussein, la Syrie, subissent une importante défaite militaire qui va entamer la légitimité ou la crédibilité des dirigeants de ces pays. Entre-temps, Nasser meurt en 1970, il est remplacé par un nouveau président égyptien, un raïs égyptien, comme on dit, raïs c'est celui qui est à la tête d'eux en arabe, qui s'appelle Sadat. Et en Syrie, le père de l'actuel président Bachar el-Assad, qui s'appelait Hafez el-Assad, prend le pouvoir aussi en 70, et il leur faut absolument lancer une offensive pour essayer de laver la défaite de 67 et éviter d'être chassés par leur population. Ces pays sont soutenus à l'époque par l'Union soviétique, qui est ici. Vous voyez, soutien aux pays arabes ennemis d'Israël. Les pays arabes ennemis d'Israël sont ceux qui sont en marron un peu foncé, là, ceux-là, vous voyez, là, hop, qui sont plutôt, tout cela, des pays nationalistes arabes, proche de l'URSS, socialiste ou plus ou moins socialiste. Celui-ci, le Yémen du Sud, vous verrez qu'il n'existe plus dans la carte suivante, est même un satellite de l'Union soviétique à l'époque. D'autres pays arabes, en couleur plus claire, eux, ne sont pas du tout pro-israéliens, mais ils sont très, très hostiles aux pays nationalistes. Et le chef de file de ces pays-là, c'est l'Arabie saoudite, donc ils sont en plus clair. Vous voyez, c'est le centre du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une idéologie qu'on appelle aussi le salafisme, ça veut dire un peu pour notre propos d'aujourd'hui, c'est la même chose, qui est une vision extrêmement rigoriste de la religion musulmane, très hostile au modernisme, au socialisme, au nationalisme, etc., et qui est plutôt proche des Américains. Donc, au Yémen, par exemple, les troupes russes, enfin les troupes égyptiennes, pardon, soutenues par les Russes et les Saoudiens se battent pour l'influence sur le Yémen. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la chose qui est la plus importante dans cette région, depuis 1945, ce qui fait son inscription particulière dans le monde, c'est ça, c'est-à-dire là, le golfe qu'on appelle généralement persique, que les Arabes insistent pour appeler arabique ou arabo-persique, mais traditionnellement c'est persique. Donc ce golfe qui passe ici par le détroit d'Ormuz, vous voyez, qui est très étroit, facile à contrôler, c'est à peu près 25% de la production de pétrole exportée dans le monde, chaque jour. Donc si ce golfe est bloqué, quel est le résultat? Les prix montent, hein, très rapidement. Et donc ça fait une crise pétrolière. Donc, vous avez une situation où Israël, à l'époque, est allié, bien sûr, aux États-Unis. Les États-Unis qui ont pris le relais de la France, qui était le principal allié d'Israël auparavant, jusqu'à la guerre de 67. La guerre des six jours de 67 est gagnée essentiellement par les mirages d'assaut français. Mais en novembre, le général de Gaulle décide d'avoir une politique arabe, d'avoir une politique équilibrée dans la région, cesse d'armer Israël, et ce sera les États-Unis qui reprendront directement le relais en fournissant de l'armement militaire américain. Israël a pour allié donc les États-Unis, l'Iran. Alors évidemment, aujourd'hui, ça semble curieux, puisque l'Iran, on verra tout à l'heure sur l'autre carte, et Israël sont dans un état d'opposition absolue. L'Iran du Shah, très proche des États-Unis à ce moment-là, très anti-soviétique, qui a une frontière contre l'URSS, vous voyez là, il y a encore écrit URSS, la carte suivante, ça va disparaître, et qui organise une expédition militaire pour, dans le sultanat d'Oman, pour éviter qu'une insurrection marxiste pro-soviétique, appuyée sur le régime du Yémen du Sud socialiste, ne s'y développe. La Turquie, membre de l'OTAN, très anticommuniste à l'époque, et qui donc, vous voyez là, c'est la barrière pour limiter la descente de l'URSS vers les mers chaudes et vers les puits de pétrole, hein, qui est un enjeu fondamental qui s'est joué après Yalta, où le président Roosevelt et le premier ministre Churchill ont tout fait pour, lors du partage du monde, éviter que l'URSS puisse descendre ici, parce que là, c'était les mers chaudes, et le contrôle, s'ils avaient ça, plus les champs soviétiques qui sont par ici et qui sont en Sibérie, donc par là, ça voulait dire le contrôle sur l'immense majorité du pétrole mondial. Et donc la guerre froide aurait été vite terminée au profit de l'URSS. Voilà la situation à peu près. Donc une opposition au Moyen-Orient entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire les Américains et les Russes et les Soviétiques, et d'autre part, un conflit entre Israël et les pays arabes, et Israël soutenu par Turquie et Iran, et à l'intérieur des pays arabes, un conflit entre les nationalistes plutôt appuyés sur l'URSS hein, et les pays pétroliers plutôt conservateurs, qui n'aiment pas beaucoup Israël, mais qui n'aiment pas du tout non plus Nasser et surtout l'URSS. En octobre 1973, Sadat d'Égypte et Hafez al-Assad de Syrie déclenchent une offensive militaire contre Israël, profitant de l'effet de surprise à cause du Kippour en Israël. Et l'armée égyptienne traverse le canal de Suez, la ligne Barlev, qui est le nom d'un général israélien qui était là, Et les Syriens conquièrent le plateau du Golan, reviennent sur le plateau du Golan, qui était à eux, par ici. C'est la panique en Israël. Le Ramadan, comme je vous l'ai dit, c'est en principe, ça doit être, un moment où on s'abstient de toute nourriture, quand on est musulman pieux. Mais il y a un cas où on peut être autorisé à se nourrir pendant le Ramadan. Enfin, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est quand les savants religieux, ce qu'on appelle en arabe les ulama, les oulémas, les jurisconsultes ou les prêtres, si vous voulez, pour simplifier les choses, déclarent le djihad. Qu'est-ce que c'est que le djihad ? En arabe, c'est une racine qui veut dire l'effort, l'effort qu'on fait pour être meilleur musulman, pour assurer l'expansion de l'islam à travers le monde. Mais en l'occurrence, c'est aussi la guerre sainte ou le combat sacré que l'on va mener contre, entre guillemets, les ennemis de l'islam. C'était un terme qui, même s'il est resté présent dans le vocabulaire religieux, n'était plus très utilisé dans la vie moderne, les relations internationales, la guerre et la paix l'avant-dernier quart, disons, du XXe siècle, entre la Seconde Guerre mondiale et justement 1973. En proclamant le djihad, les oulémas, syriens, égyptiens et autres, disent qu'on n'est plus obligé de faire le ramadan. Donc, on peut se nourrir. Et si on peut se nourrir, ça va permettre de gagner la guerre. Mais ce faisant, ce disant, qu'est-ce qui se passe ? On fait de cette guerre elle-même une guerre qui n'est plus seulement une guerre nationaliste, mais également une guerre à connotation religieuse. Les deux premiers jours, ce sont les Arabes qui sont à l'offensive. Très vite, il y a un pont aérien américain qui vient en Israël, qui fournit Israël en technologie, en armement, en munitions, etc. Et il y a une contre-offensive israélienne victorieuse qui va repousser les Syriens du Golan et qui va retraverser le canal de Suez. L'armée israélienne vient vers le Caire et elle s'arrête tout d'un coup, alors que le Caire est une ville ouverte, au kilomètre 101 sur la route de Suez au Caire. Pourquoi s'arrête-t-elle ? Parce que les pays arabes exportateurs de pétrole, emmenés par l'Arabie saoudite, pourtant rivaux de Nasser, décident l'embargo sur les livraisons de pétrole aux pays qui soutiennent Israël et décident de réduire de 5% chaque mois la production pétrolière jusqu'à ce que les droits des Palestiniens soient reconnus. La conséquence, c'est une augmentée énorme des prix du pétrole qui quadruple en quelques jours. Et donc, les pays arabes exportateurs, sous la houlette de l'Arabie saoudite, utilisent désormais le pétrole comme une arme politique qui va faire plier les pays occidentaux et Israël. Et ce faisant, surtout, ça va changer complètement le rapport de force à l'intérieur du monde arabe. Ces pays étaient relativement marginalisés politiquement par opposition à l'Égypte et à la Syrie ou à l'Irak. Ils vont désormais être, par leur richesse fabuleuse, qui va encore augmenter en 1979, les pays qui vont faire la décision. Et pour protéger leurs ressources pétrolières et pour éviter de se trouver contestés par des nationalistes, ils vont utiliser la richesse de la rente pétrolière pour favoriser partout l'islamisation dans un sens wahhabite ou salafiste dans l'ensemble des pays concernés. C'est-à-dire, ils vont donner beaucoup d'argent pour payer des religieux, des prêcheurs qui vont expliquer que l'Arabie saoudite est le meilleur pays du monde, ou le Koweït, et que si Allah les a favorisés par le pétrole, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs musulmans, les plus stricts et les plus rigoristes. Et dans un contexte où la production dans les pays arabes s'effondrent, où les pays sont très mal gérés, notamment l'Égypte, eh bien, ce genre d'argument va payer, va permettre de faire des vocations. Il y aura aussi une grande émigration de travail, puisqu'il y a de plus en plus d'argent au fur et à mesure que les prix du pétrole montent. Et donc, ces pays-là vont devenir, d'une certaine manière, le centre de la région. D'accord ? Mais ça donne des idées à d'autres. Et en 1979, ce pays-ci, l'Iran, donc qui est majoritairement de confession chiite, alors que les autres pays arabes sont majoritairement, à l'exception du Liban et de Bahreïn, qui est ici, de confession chiite. L'Iran va, à son tour, connaître une révolution islamique et va disputer à l'Arabie saoudite et aux wahhabites l'hégémonie sur le discours de l'islam politique. Entre 73 et 79, donc, on a une montée à la suite de l'augmentation terrible du prix du baril après la guerre et de l'embargo de la puissance saoudienne, appuyée des autres pays religieux exportateurs de pétrole, qui est le cas de la péninsule arabique, hein, au détriment des nationalistes. Mais en 1979, on va avoir la prise de pouvoir en Iran, on va chasser le Shah, et l'ayatollah Khomeini, un religieux chiite, va devenir le guide de la révolution islamique. Alors, l'Iran est aussi un gros exportateur de pétrole. Le Shah d'Iran, donc l'Iran n'est pas un pays arabe, hein, c'est un pays persanophone, et chiite, sunnite, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, au début de l'islam, vous avez une différenciation entre, il y en a plusieurs, mais la plus importante, entre deux grands types de manières de penser la légitimité politique et religieuse en islam. Les sunnites considèrent que celui qui doit guider la communauté, qui doit être imam, qui doit être calife, c'est-à-dire successeur du prophète Mohammed, qui était un homme d'État aussi, un prophète et aussi un homme d'État, c'est celui qui a montré les meilleures capacités politiques et religieuses pour diriger la communauté. En d'autres termes, ça n'est pas nécessairement une hiérarchie dynastique, ça n'est pas une succession dynastique, ça n'est pas héréditaire. Les chiites, au contraire, considèrent que c'est la famille du prophète qui est légitime pour diriger les musulmans. Le prophète n'a pas eu de fils, mais il a eu des filles, et c'est son petit-fils, par sa fille, qui doit, enfin son gendre d'abord, et son gendre et cousin, puis son petit-fils, et la lignée de ses descendants, qui ont la légitimité pour guider la communauté des croyants, hein, pour être ce qu'on appelle les imams, avec un I majuscule dans le chiisme. Alors, pour vous rendre les choses très simples, c'est un peu comme les conflits dans le christianisme entre orthodoxie et catholicisme, ou catholicisme-protestantisme, hein, on ne va pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, mais au cours des siècles, ces conflits ont été parfois exacerbés et parfois refroidis. En France, au XVe et XVIe siècle, vous avez eu des guerres de religion où les protestants et les catholiques s'étripaient. Il ne viendrait à personne en France aujourd'hui l'idée de s'étriper parce qu'on est protestant ou catholique. En revanche, dans le monde musulman, donc on va le voir tout maintenant, les conflits entre sunnites et chiites, qui sont peut-être le prétexte d'autres conflits politiques, hein, mais en tout cas qui se font au nom de cette opposition, ont causé des millions et des millions de morts depuis les 20 dernières années, et ça n'a fait que s'aggraver récemment. Donc en 1979, vous avez l'Iran qui bascule dans la République islamique et qui va disputer à l'Arabie saoudite le leadership sur l'islam politique. Considérer que les Saoudiens ne sont que les laquais de l'impérialisme américain, les alliés secrets de l'État d'Israël, et qui ne font pas mystère de leur volonté de subvertir ces pays. En conséquence de quoi, l'Irak, à l'époque dirigé par Saddam Hussein, sunnite, qui représente la minorité sunnite en Irak, l'Irak est un pays qui est aussi à majorité chiite, va attaquer en septembre 1980 l'Iran, et il y aura une guerre de 8 ans entre l'Iran et l'Irak, qui se terminera par un armistice qui laissera les deux exsangues. En même temps, 1979, année très importante, c'est une année qui est celle du 15e siècle de l'Hégire. L'Hégire, c'est le calendrier musulman qui commence à la mort du prophète, qui commence, excusez-moi, au départ du prophète de la Mecque vers Médine, en l'an 622 après Jésus-Christ, Et 1979, c'est le 15e siècle de l'Hégire. On considère, dans la tradition musulmane, qu'à chaque changement de siècle, il y a un rénovateur qui vient, quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour remettre l'islam sur le droit chemin et purger l'islam des déviations du siècle passé. En novembre 1979, donc pendant au moment précis de ce début du siècle, à La Mecque, qui est donc ici, à côté de Jeddah, hein, qui est la ville la plus sainte de l'islam, la grande mosquée de La Mecque, qui est sous le contrôle de la famille Saoud, qui dirige l'Arabie saoudite, qui en retire une grande légitimité, il y a un assaut qui est donné à la grande mosquée par des ultra-wahhabites, djihadistes, dont j'ai déjà, qui considèrent que les Saouds, en fait, prétendent qu'ils sont bons musulmans, mais préfèrent le billet vert, c'est-à-dire le dollar, au livre vert, c'est-à-dire le Coran, et adorent davantage le baril de pétrole qu'ils n'adorent la pierre noire de la Mecque, autour de laquelle on tourne pendant le pèlerinage musulman. C'est un affront terrible pour les Saouds, puisque sur leur propre territoire, ils sont attaqués par plus radicaux qu'eux, qui considèrent qu'ils sont indignes de diriger le monde musulman. Et c'est un très gros défi policier et militaire, et c'est du reste le GIGN français qui doit intervenir pour reprendre la Mecque. Problème, aucun non-musulman n'a le droit d'entrer dans le haram, c'est-à-dire dans l'espace sacré de la Mecque. Les gendarmes font donc une conversion de façade à l'islam, mais ils sont dirigés par le capitaine Baril, qui porte bien son nom, donc, et qui va libérer la Mecque et également les puits de pétrole de l'islam. Comme si tout ça ne suffisait pas. L'année 79, qui commence donc par le retour de Khomeini à Téhéran, il venait de Naufle-le-Château en France, où il avait rendu très riche la pâtissière qui est ensuite allée sur la Côte d'Azur parce qu'il mangeait beaucoup de gâteaux. Ensuite, il y a le traité de paix israélo-égyptien, ce qui fait que la ligne de conflit qui était là autrefois va se déplacer par là. Il y a ensuite donc l'attaque de la Grande Mosquée, la prise d'otages des Américains dans l'ambassade à Téhéran et, cadeau de Noël de tout ça, la Russie, l'armée rouge, envahit l'Afghanistan à Noël. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un régime plutôt philo-communiste en Afghanistan et ils avaient voulu appliquer le marxisme d'une manière assez brutale, en dévoilant les femmes à coups de trique, en obligeant la construction du socialisme dans les villages. Révolte massive. Donc, Moscou envoie une autre faction du Parti communiste pour la remplacer celle-ci. Mais ce faisant, ils entrent dans un pays qui n'était pas prévu dans les accords de Yalta. Et ça va poser un très gros problème. Les Américains sont obligés de réagir. Ils ont déjà perdu l'Iran. Leurs diplomates sont otages, l'allié saoudien est dans un état épouvantable, donc il va falloir qu'ils réagissent et ce sera le début du financement par les États du Golfe et de la fourniture d'armes, etc., par les Américains de ce qu'on appellera le djihad en Afghanistan. Pendant 10 ans, de 1979, Noël 79, à enfin un peu moins au 15 février 1989, vous allez avoir une guérilla payée par les pétrodollars et, comme on dit en anglais, trained and equipped, c'est-à-dire entraînée et équipée par la CIA, qui va lutter contre l'armée rouge en Afghanistan et qui va réussir, au bout de 10 ans, à faire partir l'armée rouge d'Afghanistan. 15 février 1989, 89, c'est l'année justement de la chute du mur de Berlin, parce que la défaite en Afghanistan expose l'armée rouge comme un tigre de papier, si j'ose dire, et le modèle soviétique va devenir totalement invivable, ce sera l'estocade finale, hein, après la décomposition du système soviétique, qui disparaît cette même année 89. Donc c'est une chose extrêmement importante qui inscrit le Moyen-Orient dans le système du monde. Hein, ça se passe là. En fait, la chute de l'Union soviétique, elle se produit avec la défaite de leur expédition en Afghanistan. Donc ça, c'est un enjeu, bien sûr, qui est absolument considérable en 1989.
Vous avez, donc en 73, la guerre était déjà un djihad. Celle-ci va être appelée aussi djihad. Et petit à petit, le vocabulaire du religieux islamique s'infiltre dans le vocabulaire politique et dans le vocabulaire des relations internationales. Finalement, ce qui va achever la guerre froide entre soviétiques et américains, c'est l'intervention en Afghanistan. Et ceux qui, ce que le président Reagan appellera des « freedom fighters », des combattants de la liberté, ce seront des barbus patibulaires qu'on va envoyer au casse-pipe contre l'armée rouge, qu'on va bien sûr pas faire venir défiler sur le Mall à Washington, mais qui seront bien utiles pour cela. Les Américains croient qu'ils vont pouvoir s'en débarrasser ensuite, une fois que les Russes auront été battus, mais ça ne sera pas du tout le cas. Et ce djihad d'Afghanistan va durer, se prolonger à travers différentes mutations dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, et jusqu'à Daesh et jusqu'à maintenant. Une petite chose, à l'époque, donc là j'étais quand même né, j'avais 24 ans si je me souviens bien, non un peu plus peut-être, 89, non, 34 ans, donc j'étais quand même capable de lire le journal et de voir ce qui se passait. Personne, pas plus moi que les autres d'ailleurs, n'ont fait attention à ce qui se passait le 15 février 1989, événement majeur de la géopolitique mondiale, c'est-à-dire le retrait soviétique d'Afghanistan, qui entraînerait, quelques mois plus tard, la chute du mur de Berlin le 9-11. 9 novembre, retenez bien, 9-11. Hein. Vous avez compris où je veux en venir, bien sûr. Personne ne l'a remarqué. Alors pourquoi personne ne l'a remarqué? Parce que tout le monde était complètement obsédé par ce qui s'est passé la veille, le 14 février 1989. Alors, vous me direz, vous avez l'excuse de ne pas savoir, vous n'étiez pas né. Mais est-ce que certains d'entre vous ont une idée? Alors, je vous rassure, quand je faisais ce cours à Sciences Po, où on était beaucoup plus frivole qu'au CPES, il y en avait toujours une ou un maintenant là, qui disait « Monsieur, c'était la Saint-Valentin ». Je disais « Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne réponse ». Alors, oui. Pardon ? Oui, bravo, je sens que vous allez avoir une bonne note, oui. Il s'appelle une fatwa, oui, c'est ça. Oui. Salman Rushdie, voilà. Bravo, voilà, on l'applaudissait. Vous avez une très belle carrière, peut-être en physique ou en chimie, je ne sais pas, enfin, pas peut-être d'une autre manière. Donc bravo, c'est ça. Donc c'est la fatwa qui condamne Salman Rushdie à mort. Salman Rushdie est un écrivain britannique, d'origine indienne, qui a eu l'équivalent du prix Goncourt britannique, qu'on appelle le Booker Prize, pour un de ses livres, qui s'appelait Midnight Children, et qui en publie un autre qui s'appelle The Satanic Verses, les versets sataniques, qui est une espèce de fiction postmoderne qui raconte une histoire assez incroyable qui se passe à des Indiens qui vivent en Angleterre, et qui revisite l'histoire en des termes où il utilise, pour parler du prophète Mohammed et de ses nombreuses épouses, des récits médiévaux qu'il remet à sa sauce, qui ne présente pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le prophète sous un jour très glorieux. Du coup, un certain nombre d'associations islamistes à travers le monde vont attaquer le livre. Il sera, par exemple, brûlé en place publique, comme en auto-da-fé, dans la ville de Bradford, une vieille ville sinistrée du Yorkshire en Angleterre. Il y a des populations d'origine indienne et musulmane très importantes. Mais surtout, le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini, qui a dû se résoudre à signer un cessez-le-feu, avec l'Irak un petit peu avant, prend ce décret. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le lendemain, les Russes vont se retirer d'Afghanistan. La victoire américaine et saoudienne en Afghanistan, évidemment, est très mauvaise pour l'Iran. Parce que ça veut dire que ce sont ses rivaux musulmans, sunnites, wahhabites, saoudiens, qui apparaissent comme les défenseurs, par excellence, de l'islam. Ce sont eux qui auront chassé les soldats infidèles qui ont envahi la terre d'islam afghane, en l'occurrence qui auront chassé les athées soviétiques. D'accord ? Et donc ça va augmenter considérablement le prestige politique des sunnites et aussi des Américains, qui sont tous les deux les ennemis de l'Iran. Donc l'Iran tire le tapis sous les pieds d'une certaine manière des sunnites le jour précédent, remporte une victoire médiatique extraordinaire en condamnant à mort, avec une fatwa, parce qu'au nom de, pour avoir insulté le prophète de l'islam, un citoyen britannique. Alors ça semble une chose totalement scandaleuse et ahurissante, puisque comment est-ce qu'un ayatollah vivant en Iran peut prononcer un jugement condamnant à mort un citoyen britannique, fut-il nommé Salman Rushdie. Ce faisant, d'une certaine manière, parce qu'une fatwa, c'est-à-dire un jugement religieux, c'est un peu comme une bulle du pape, si vous voulez, pour ceux qui connaissent le catholicisme, ça ne s'applique que sur un territoire qui est contrôlé par une autorité musulmane, qui peut exercer ce pouvoir juridique et le rendre exécutif, exécutoire. Eh bien, ce faisant, au fond, Khomeini décide que le monde entier est sous sa juridiction et qu'il est parfaitement fondé à envoyer des assassins pour tuer Rushdie. Alors, Rushdie, lui, est toujours vivant, mais un de ses traducteurs a été tué au Japon, un de ses éditeurs en Italie, etc. C'était une chose extrêmement sérieuse. Il y avait un État qui s'engageait pour tuer. Et ça a fait un tel scandale, on était tellement peu habitués en 1989 à ça, que ça a focalisé l'attention du monde pendant des semaines et des semaines. Et du coup, personne n'a prêté attention à ce qui s'est passé le lendemain. Ce qui était le but de l'opération. Ce qui voulait gagner dans le champ médiatique une bataille, ça s'est avéré plus important, sur le coup en tout cas, que de gagner une bataille sur le champ de bataille militaire. Vous comprenez ? Alors, je vous dis ça parce que, évidemment, c'est très important rétrospectivement. Charlie Hebdo, ça procède de la même logique, c'est-à-dire on tue les gens de la rédaction de Charlie Hebdo parce qu'on les accuse d'avoir, par leur dessein, insulté le prophète. L'affaire dite des caricatures du journal le Jyllands Posten en 2005 au Danemark, c'est également la même chose. À part que ce n'est plus un État, l'État iranien qui le met en œuvre, mais que ce seront des djihadistes sunnites, dans le cas de Charlie Hebdo, par exemple. Donc, aujourd'hui, finalement, si j'ose dire, on s'est habitué à ce genre de phénomène. Mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. C'est Khomeini qui a inventé cette manière d'agir. Donc, on a à ce moment-là cet antagonisme entre sunnites et chiites qui s'est encore aggravé et qui va aboutir en 1989, qui va déborder le Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient s'intègre comme un acteur central dans le système du monde, puisque ça aboutira à la chute de l'URSS et à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Pour les djihadistes qui ont combattu en Afghanistan, les gens comme, le nom vous est connu, Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, qui est l'actuel patron d'Al-Qaïda, enfin de ce qu'il en reste, etc. Pour eux, le monde ne se perçoit pas exactement comme l'histoire du monde n'est pas exactement, ça ne la représente pas comme vous la représentez en, je ne sais pas quelle est, à mon époque c'était Lagarde et Michard, quand j'étais élève, je ne sais plus, vous n'utilisez plus ça dans cette revue, je ne sais plus comment ça s'appelle les manuels de scolaire d'histoire que vous avez utilisé. Enfin, comment ? Fernand Nathan. Fernand Nathan, c'est un éditeur. Je vois pour mon fils, de toute façon, ça va dans n'importe. Tout est mélangé, j'ai vu aujourd'hui, en seconde, donc peut-être que c'est eux qui ont raison. Donc, comment est-ce qu'il voit le monde ? Comment Ben Laden voit le monde ? Pour lui, le monde, l'histoire du monde, elle est très simple. C'est l'histoire de la révélation prophétique. La révélation du Coran, des textes sacrés au prophète Mohammed, et de la nécessaire conquête du monde par l'islam. Or, malheureusement, parce que les musulmans étaient trop tièdes ou trop mondains, parce que les ennemis de l'islam ont fait divers maléfices, cela ne s'est pas effectué. Eux voient leur devoir dans la nécessité de remettre en marche ce processus de manière vertueuse, de rejouer la geste du prophète et de ses compagnons, les premiers cavaliers de l'islam, pour rétablir le monde dans la vision qu'ils en ont comme salafistes et comme djihadistes. En l'an 636 de l'ère chrétienne, le calife Omar, qui était l'un des premiers successeurs du prophète Mohammed, remporte la bataille dite de Qadisiyah, c'est-à-dire que l'islam naît ici, dans cette région-là, va se répandre ensuite un peu partout comme ça, mais il remporte près de Ctesiphon, c'est-à-dire ici en Irak, voilà, par là, une bataille qui va mettre fin à l'Empire sassanide. L'Empire sassanide, c'était l'Empire persan ultérieurement, c'était l'une des deux grandes superpuissances de l'époque, si je puis raisonner de manière anachronique. Et en détruisant, l'idée qu'ils ont été la clé dans la destruction de l'URSS, les djihadistes se disent qu'ils revivent ce qu'a fait le prophète Omar à Qadisiyah, c'est-à-dire qu'ils ont détruit l'Empire soviétique comme le prophète Omar avait détruit l'Empire sassanide, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam ? L'autre grande superpuissance, ça a pris beaucoup plus longtemps, qui était l'Empire byzantin, devait être détruit également par les armées musulmanes. Et ça, c'est advenu beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 1453, quand Constantinople, ou Byzance, est tombée sous les coups de l'armée ottomane du sultan Mehmet II Fatih. Dans l'esprit de Ben Laden, dans la représentation du monde de Ben Laden et des djihadistes, il faut faire la même chose aujourd'hui. De quelle manière ? De même qu'on a fait tomber l'Empire soviétique à la manière de l'Empire sassanide, on va faire tomber l'Empire américain, l'autre superpuissance, à la manière de l'Empire byzantin. Et c'est ce qui va donner l'attaque du 11 septembre 2001. D'accord ? Cette attaque, d'ailleurs, est appelée dans la littérature djihadiste. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'arabe parmi vous ? Oui ? Alors, vous allez leur traduire. El-Ghazwatayn el-Mubarakatayn. El-Ghazwatayn el-Mubarakatayn. Oui ? Parlez plus fort. El-Ghazwatayn. Les deux razzia, notamment, on dit en allemand, en français, les deux razzia. Mubarakatayn. Mubaraka. Qu'est-ce que la baraka, c'est quoi ? La baraka, ça, tout le monde sait ce que c'est, la baraka. Hein. Mubaraka, c'est-à-dire béni. Les deux razzia religieuses bénites. D'accord ? Mubarak, le prénom Mubarak en arabe, c'est Benoît, si vous voulez. Hein, ça veut traduire par Benoît. Benoît, c'est Mubarak. Et donc, ou Bénédicte, si vous voulez. Et Mebarka, c'est Bénédicte. Et donc, donc les deux razzia bénites, ça veut dire quoi ? Double, parce que c'est contre les deux tours et contre Washington et New York. Et c'est le terme qui est utilisé, les razzia, pour nommer les raids qui sont lancés, razzia en arabe, le mot razzia en français vient de l'arabe razzia, le mot razzia en français vient de l'arabe razzia, justement, pour désigner les attaques, ce sont les attaques bédouines au départ qui sont très rapides, qui détruisent l'adversaire et qui se retirent rapidement. Hein, qui sont basés sur une infériorité numérique compensée par la fougue, la rapidité, etc. Et donc, qui ont fait chuter Byzance. Là, l'idée, c'est non pas de faire tomber tout de suite New York et Washington. Byzance a été attaquée de nombreuses fois avant de tomber, finalement. Tout son empire a d'abord été mangé avant. Hein, mais de commencer, d'indiquer la voie pour ce mouvement. Alors, ce phénomène, c'est un phénomène aussi qui s'inscrit dans une transformation du mouvement djihadiste. Le mouvement djihadiste a d'abord visé des pays musulmans dont on voulait chasser les dirigeants non pas assez musulmans, en Afghanistan. Ensuite, ça a été prolongé en Égypte et en Algérie dans les années 1990, mais ça n'a pas marché en Égypte et en Algérie. pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Et du coup, un certain nombre de ceux qui étaient en Afghanistan, puisqu'en Afghanistan, il y avait des Afghans qui combattaient, mais il y avait aussi des brigadistes internationaux venant de nombreux pays musulmans, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, d'Algérie, du Pakistan, de certaines banlieues françaises aussi. Et quand ils ont, quand l'armée rouge est partie, la plupart sont revenus dans leur pays avec l'idée de faire la même chose dans leur pays que ce qui s'était passé en Afghanistan. Ça donnera 5 ans de djihad en Égypte, en Algérie notamment, en Bosnie aussi, entre 92 et 97. Mais finalement, ils sont battus. Ils sont battus et parmi ceux qui étaient partis en Afghanistan, il y avait donc le Saoudien Ben Laden et l'Égyptien Zawahiri qui se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on a échoué ?» Ils ont réfléchi. Et Zawahiri, qui est un médecin égyptien, a publié en ligne, parce que là, on est dans les années 90, l'Internet commence à apparaître, ainsi que la télévision par satellite. Ça, c'est très important. Avant cette période, comment est-ce qu'on communiquait? Vous n'osez pas imaginer qu'il puisse y avoir un univers où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein, ça, c'est pas pensable, pas de téléphone portable. Mais si, si, ça a existé. Non, mais on n'a pas eu ça tout de suite. L'Internet arrive vers 96, en même temps que la chaîne par satellite, Al Jazeera. Comment est-ce qu'on faisait avant pour envoyer un tract, par exemple, d'une mosquée de Londres à Paris? Eh bien, il y avait une machine, peut-être qu'il y a dans le musée de la préhistoire à côté, vous pourrez la trouver, qui s'appelait le fax. Ça fonctionnait par fax. C'était très cher, la communication par fax. Chaque fax coûtait une fortune. Après, pour la deuxième phase du djihadisme, avec l'attentat contre le 11 septembre, on fonctionne à travers la télévision par satellite. La télévision, c'est très important parce que ça fournit un spectacle universel. Et Zawahiri, justement, explique dans son manifeste, dont je vais vous parler maintenant, que l'une des raisons pour lesquelles les djihadistes, finalement, n'ont pas gagné dans la première phase, en Algérie, en Égypte, etc., c'est qu'ils n'ont pas su expliquer leur cause aux masses. Ils n'ont pas su gagner la bataille médiatique. Contrairement à qui a gagné la bataille médiatique autrefois? Les Iraniens. Khomeini a gagné la bataille médiatique par la fatwa contre Salman Rushdie. Voyez, le 11 septembre, c'est aussi une victoire médiatique. Comment est construite la scénographie du 11 septembre? Ça ressemble à quoi, le 11 septembre? Vous allez me dire, vous n'étiez pas né encore, mais vous avez entendu parler. Vous gardez ça sur les réseaux sociaux. Alors, ça ressemble à quoi? Il vous arrive d'aller au cinéma, enfin, peut-être vous n'y allez plus non plus. Oui, dites-moi. Pardon? Ah non, 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 on est dans le domaine de la... On n'est plus dans l'imprimé, là. C'est quoi, qu'est-ce que vous voyez du 11 septembre? Vous voyez 2 tours qui s'effondrent, d'accord? Les avions qui tombent dedans, ils s'effondrent. Ça ressemble à quoi? À un film de Hollywood. Hein? C'est un spectacle. Il y a un film qui s'appelle... je ne sais plus comment ça s'appelle. Tours infernales, c'est quoi en anglais? Non, mais en anglais. Ah, c'est pas... Comment? Non, non, c'est un autre type. C'est pas grave. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas le cours d'anglais aujourd'hui. Bon, c'est pas... On a le droit. On peut encore parler français en CPES, donc il faut en profiter ces dernières années. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est... Le langage de Hollywood est un langage extrêmement puissant, qui construit les émotions, d'accord? La représentation du monde des passions, c'est Hollywood qui la, pas qui la truste, mais qui la domine. Or, vous mettez dans le journal de 20 heures, à l'époque on regardait encore le journal de 20 heures, je crois que plus personne ne le regarde. Qui regarde encore la télé ici parmi vous? 1, 2, 3. Vous avez conscience, vous êtes parti d'une minorité attardée. Hein, et voilà, c'est ça, 3. Bon. Le journal de 20 heures, là, personne. Bon, à l'époque, on regardait le journal de 20 heures. Donc, on met dans le journal de 20 heures quelque chose qui est du Hollywood, à part que c'est vrai. D'accord? Donc, ça fait une impression extraordinaire. ça s'empare des consciences. Et donc, la bataille médiatique est gagnée. Mais cette bataille médiatique, elle va servir à mobiliser des gens. Il y aura ensuite, les Américains vont intervenir en Afghanistan, puis en Irak. Enfin, je ne vous raconte pas le détail. Mais la deuxième phase du djihad ne va pas fonctionner non plus. Parce que c'est un djihad par le haut. C'est un djihad qui n'est pas basé dans les quartiers populaires, qui n'a pas de grassroots, comme on dirait en anglais. Et à partir de 2005, on va avoir une troisième phase, qui est celle dont nous venons peut-être de sortir, parce que c'est toujours difficile, quand on analyse quelque chose, un phénomène comme ça, de dire quand est-ce que c'est fini. En rétrospective, moi ça fait 40 ans, enfin 30 à peu près, que j'étudie ces phénomènes assez précisément, je ne peux pas me rendre compte qu'un phénomène est terminé ou commence au moment où il commence ou au moment où il finit. On est obligé d'avoir du recul. Vous comprenez pourquoi ? On ne peut pas prévoir les conséquences. Ça n'est qu'avec un peu de... Là, maintenant, je fais l'hypothèse que la troisième phase du djihad s'est achevée avec la chute de Raqqa l'année dernière. Daesh a été ratatiné. Alors, maintenant, tous les journalistes me demandent, alors, professeur, comme si j'étais un prophète, qu'est-ce qui va se passer ? Je dis, ouh là là, d'abord achetez le livre, ensuite on verra. Déjà, pour faire une idée, achetez 22 euros. Et attendez le poche, hein, pour les étudiants. Donc, mais on ne peut pas le savoir tout de suite. Il faut se mettre en rétrospective. Et c'est ça le travail de l'historien du contemporain, ou du politiste, ou du géographe, c'est pareil que c'est géographe maintenant, du contemporain. Donc, la troisième phase va se mettre en place contre Ben Laden. Ben Laden envoie les avions, utilise la télé, c'est-à-dire a besoin de quelque chose de centralisé qui va diffuser à partir du haut vers le bas. À partir de 2005, alors que les gens d'Al-Qaïda sont pourchassés par les Américains en Afghanistan, il y a un autre idéologue, un gars qui a un Syrien, qui s'appelle, dont le surnom est Abu Musab Suri, qui a du reste fait des études en France, des études d'ingénieur, mais ce n'était pas PSL qui est innocent, parce que PSL n'était pas encore inventé à l'époque. À l'époque où en France, il y avait un intellectuel à la mode, un philosophe qui s'appelait Gilles Deleuze, et qui avait pensé un schéma de la révolution anti-léniniste. La révolution léniniste, c'est le parti qui s'empare du pouvoir et qui diffuse à la société, qui donne des ordres à la société. Et lui avait pensé un schéma inverse, qui s'appelait le rhizome révolutionnaire. Vous savez ce que c'est qu'un rhizome ? Vous avez fait ça en cours de... Qu'est-ce que c'est ? De biologie ou de sciences nat, on disait quand j'étais jeune. Le rhizome, c'est la racine souterraine. Il y a des plantes qui ont des racines souterraines, les roseaux par exemple, vous voyez. La racine court sous la terre et tout d'un coup, pac, il y a une tige qui sort, puis une autre qui sort ici. Vous pouvez toujours couper la tige, ça ne sert à rien parce que en fait c'est quelque chose qui pousse sous le rhizome. Et c'était un schéma pour penser la nécessité de la révolution universelle de l'époque. Alors est-ce que... J'ai passé dans les écoles d'ingénieurs ou étudié souris, qui n'était pas très, très bon étudiant, je crois. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il a cette idée, c'est qu'il faut renverser la perspective. Il faut, en fait, non plus faire une révolution par le haut, djihad par le haut, c'est-à-dire envoyer des gens dans des avions, dans les airs, percuter des tours, mais la faire sortir du bas. Et ça correspond aussi à une transformation des modes de communication. Phase 1, grand-père, ma génération, fax. Phase 2, télé, satellite, début de l'Internet. Phase 3, que se passe-t-il ? Vous allez croire, je suis complètement obsédé par le 14 février. Que se passe-t-il le 14 février 2005 ? Comment ? La création de YouTube. Ah, voilà, vous avez triché, vous avez déjà écouté de moi. C'est bien quand même, voilà. Création de YouTube. YouTube obtient sa licence en Californie. Bravo.
On vous l'applaudit, c'est là aussi, s'il vous plaît. Et vous aurez aussi une très bonne note. Et c'est le sentiment, je me répète, hein, mais bon, c'est toujours les mêmes blagues. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va permettre quoi? Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous ce que ça change. Ben si, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça change, la création de YouTube par rapport à la télé? La télé, vous devez fabriquer un spectacle à grand spectacle, si j'ose dire, que les chaînes de télé vont être obligées de diffuser. Ce n'est pas vous qui contrôlez la diffusion de la télévision. Vous devez faire un produit hollywoodien que les chaînes vont diffuser. Maintenant, avec YouTube, il vous suffit de filmer, si vous êtes djihadiste, la décapitation d'un pauvre malheureux que vous avez arrêté et de la mettre sur YouTube, et ça devient viral sur les réseaux sociaux. D'accord ? On n'a plus besoin de passer par la télé. Tout se diffuse à partir de la base et en rhizome, justement. D'accord ? Et donc, les réseaux sociaux, YouTube, Snapchat, Telegram, Instagram, enfin, toutes sortes de choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui suis maintenant largué complètement, vont permettre la diffusion de ce djihadisme de troisième génération. Et ce sera Daesh qui va percoler entre les banlieues populaires européennes et les terres de djihad voisines et qui va bénéficier énormément, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que je vois que David me regarde d'un air méchant, en dépit de notre différence d'âge, ce qui va se passer, c'est que les réseaux sociaux vont permettre à ces mouvements de se diffuser depuis le bas vers le haut, bottom up, comme on dirait en anglais, et non pas top down, d'accord? Et ça, ça va donner une avance extraordinaire à ces phénomènes sur les systèmes de répression qui seront incapables de les contrer pendant un certain temps. Maintenant, le gendarme l'a emporté sur le voleur, si vous voulez, aujourd'hui, mais le voleur avait une certaine avance. Et c'est ce qui va créer l'espace qui permettra, par exemple, les attentats en France en 2015-2016. Et cela profitant, justement, des révolutions arabes. Je termine là-dessus, on va mettre maintenant l'autre carte. Les révolutions arabes, ou les révoltes arabes, qui naissent donc à partir, qu'on appelle les printemps arabes, qui se produisent presque tous dans l'hiver 2010-2011, hein, ce sont des soulèvements populaires venus surtout de la jeunesse éduquée au départ, qui vont faire boule de neige dans d'autres classes sociales, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, et qui vont donner le sentiment que ça y est, les pays arabes vont entrer dans l'ère démocratique. Après la chute des colonels en Grèce, en 1974, la chute de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne, après la chute des dictatures du système soviétique en 1989, suite à l'effondrement du mur de Berlin, ça y est, maintenant, les pays arabes vont pouvoir échapper à la malédiction du dilemme entre, d'un côté, un régime autoritaire, militaire, et de l'autre côté, le djihadisme. Il va y avoir une voie démocratique. Simplement, ce qu'on ne voit pas à l'époque, c'est que par-delà la surface des manifestations sur la place Tahrir au Caire, avenue Bourguiba, Tunis, etc., ces mouvements djihadistes plantent leurs racines, si j'ose dire, et vont mener un travail d'autant plus efficace que les structures de répression ont disparu. En Tunisie, par exemple, quand Ben Ali tombe, en janvier 2011, il quitte, il est chassé de Tunisie, il fuit la Tunisie le 14 janvier 2011, tout le monde ouvre dans l'allégresse les prisons où le dictateur enfermait les opposants. Tous les opposants sortent, aussi bien les opposants démocrates que les djihadistes, lesquels vont très vite recomposer des réseaux extrêmement importants. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, vont venir en France où dans les Alpes-Maritimes, puisque Nice et sa région sont
démographiquement la zone où le plus grand nombre d'immigrés tunisiens figure, avec la région parisienne. Les immigrés marocains sont plutôt sur la façade atlantique et les immigrés algériens plutôt dans la médiane de la France. Qui sera justement la raison pour laquelle on va voir, quand il y aura le djihad en Syrie, que les Alpes-Maritimes, qui aurait imaginé, Nice est le deuxième département, les Alpes-Maritimes sont le deuxième département exportateur de djihadistes en Syrie. Le premier étant la Seine-Saint-Denis, ça les gens comprennent spontanément pourquoi. Pourquoi les Alpes-Maritimes? Parce que justement, le fait que des djihadistes tunisiens aient été libérés très tôt des prisons, dès janvier 2011, et pu venir faire du prosélytisme dans les Alpes-Maritimes, va avoir un effet d'accélération sur le recrutement de gens qui partiront au djihad en Syrie. Oui. Comment on peut, en utilisant, en observant des phénomènes discrets dans des séquences historiques, ensuite les utiliser comme cadre analytique pour expliquer un phénomène qui apparemment est complètement paradoxal. Alors, ces mouvements djihadistes de troisième génération, donc vous profitez de cette désagrégation et vont à la fois faire le lien entre ce qui se passe en Europe dans les quartiers populaires et ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais également profiter du fait que la guerre civile en Syrie et en Irak en particulier est prise en otage par l'opposition entre chiites et sunnites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le monde arabo-musulman, vous avez une ligne à peu près qui passe ici, à l'ouest, qui correspond pour l'essentiel au domaine d'origine berbère. La majorité de la population, l'immense majorité, est musulmane sunnite. Il y a très très peu de chiites. D'accord ? Il y a des chrétiens en Égypte, un peu moins de 10% de la population, mais ils n'ont pas de poids politique comme tel. Les révolutions, enfin les chutes des régimes qui se produisent quand Ben Ali est chassé, Moubarak est chassé et Kadhafi est chassé, respectivement dans ces trois pays, se produisent avec une mobilisation de la société dans son ensemble. En tout cas, il n'y a pas de clivage conventionnel qui va empêcher le renversement du despote. Dans les autres pays où il y a des mouvements insurrectionnels, au Yémen, à Bahreïn et en Syrie, en fait, ces mouvements qui commencent comme des mouvements démocratiques, comme les autres, ceux qui sont ici, vont se trouver pris en otage par les clivages confessionnels. Pour aller rapidement, en Syrie par exemple, limité à la Syrie, le pouvoir en Syrie est largement concentré entre les mains d'une minorité qu'on appelle les Alaouites, qui sont surtout... Tiens, vous pouvez mettre la carte numéro 1 de Syrie. Syrie 2011, ouais. Voilà. Vous voyez, là, c'est la carte de la Syrie. Alors, en 2011, au moment où... c'est clair, vous y voyez bien? C'est net? Oui? Donc, c'est moi qui ai besoin de lunettes, sans doute. La révolte syrienne, mars 2011, juillet 2012. Ouais. Donc, voilà la Syrie. Là, c'est la mer Méditerranée, là, la Turquie, ici, l'Irak, la Jordanie, Israël et le Liban. D'accord. En vert, vous avez les zones sunnites. Vert foncé, ça veut dire que c'est habité. Vert clair, c'est du désert. D'accord. En mauve, vous avez les zones minoritaires non sunnites et non arabes. C'est-à-dire, là sur la côte, vous avez les Alaouites, sur la côte méditerranéenne, sont majoritaires. On a aussi beaucoup ici. Là, des Druzes, je vais vous expliquer ce que c'est. Et là, dans les poches jaunes, ce sont des sunnites aussi, mais kurdes. D'accord ? Alors, les Alaouites, c'est une secte qui, disons, qui s'apparente plus ou moins au chiisme, qui est en fait, ce sont les populations originelles, les aborigènes du Levant qui ont, au fur et à mesure des invasions, annexé deux, trois petites choses de leur culture des envahisseurs pour leur résister, pour ne pas se faire massacrer, et qui, grâce au mandat français de Syrie, les Alaouites, dans les troupes françaises du Levant, ont réussi à entrer dans l'armée française coloniale, puis ensuite dans l'armée syrienne, et ont été surreprésentés dans les castes des officiers, et sont emparés du pouvoir. Or, la population en Syrie aujourd'hui est à peu près 80% sunnite. La révolution démocratique en 2011 donc, commence en faisant des revendications démocratiques universelles, c'est-à-dire sans confession, mais très rapidement, elle est prise en otage du clivage confessionnel. Le pouvoir explique aux Alaouites et à tous les minoritaires que si jamais la révolution triomphe, en fait, les sunnites vont massacrer tout le monde et se venger. Les États arabes du Golfe sunnites soutiennent la révolution et les rebelles parce qu'ils veulent chasser le régime de Bachar al-Assad qui est allié à l'Iran et à l'Irak, aux chiites. Et donc, la guerre civile syrienne va se trouver prise en otage aussi des conflits. On revient à la carte, été 2018. On va se trouver pris en otage des conflits sunnites-chiites dans la région. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Rappelez-vous la carte la dernière fois. Remettez-la une seconde. Laissez-la regarder celle-là. Regardez, emplissez-vous les mirettes de celle-ci. Vous voyez là le retour de la Turquie. Remarquez qu'il n'y a plus du RSS. On ne voit même plus la Russie, Géorgie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan. Il n'y a plus qu'un Yémen, mais il est en mauvais état. Djibouti est devenu indépendant, c'est plus français. Ça fait partie des changements. Voilà. Et remettez l'autre maintenant, celle de d'octobre 73. Tac. Oui, là, c'est Nord-Sud. Regardez, l'Iran et la Turquie sont alliés aux Américains. Alors maintenant, remettons-nous sur l'été 2018. Voilà. Donc, conflit sunnite-chiite et intra-sunnite. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, vous avez ici une sorte de ce qu'on appelle le croissant chiite qui va de Téhéran en Irak, en Syrie et jusqu'au Liban, où Téhéran exerce une forme de domination et se trouve sous la protection de la Russie. Vous avez remarqué que la Russie a perdu du terrain aussi par rapport à l'URSS de tout à l'heure. Mais, je n'ai pas le temps de vous le dire aujourd'hui, mais c'est très étiré. Et le fait qu'aujourd'hui, on va revoir tout à l'heure la carte syrienne plus en détail, la Russie soit en passe de l'emporter militairement, ne veut pas dire qu'ils vont être capables de transformer cette victoire militaire en un succès politique. Face à cela, donc c'est l'élément le plus clivant, c'est sunnites-chiites. Vous voyez, les chiites, avec leurs difficultés internes, avec aujourd'hui l'Iran qui est en très grosse difficulté à cause des sanctions américaines. L'Iran exportait 2,2 millions de barils de pétrole par jour il y a 6 mois. Ils en sont à 1,1 aujourd'hui. Ils vont sans doute descendre à 500-600 000 à la fin de l'année, ce qui pose des problèmes économiques épouvantables, bien pire que ce que les Iraniens prévoyaient et ce qui se traduit par des comportements de très grand affaiblissement. Face à cela, vous avez deux pays qui sont dans un état de guerre civile pour l'instant insoluble. La Libye, près de chez nous, ce qui se traduit par des afflux d'immigrés clandestins. Vous avez ça qui va. Et le Yémen. À l'intérieur du monde sunnite, vous avez aussi très fort clivage. D'un côté, un bloc saoudien qui inclut l'Égypte. Et de l'autre, des rivaux dont le Qatar, la Turquie notamment, et les groupes qui sont liés au mouvement des frères musulmans, dont on parlera une autre fois, ce qui se traduit aujourd'hui par le fait que le Qatar est l'objet d'un blocus de la part de ses voisins émiratis et saoudiens. Par exemple, si vous voulez aller au Qatar en avion, d'habitude vous faisiez ça, parce que c'est au-dessus de l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'Arabie Saoudite interdit le survol de son territoire. Il faut passer par l'Iran, ça fait 1000 km de plus. Des billets beaucoup plus chers, le kérosène, pour les bateaux c'est pareil, etc. Et donc, vous avez un autre type de conflictualité qui s'est déplacé. Vous voyez au milieu le conflit israélo-arabe, il est toujours là, il est toujours présent, mais il n'a plus la même force structurante que c'était le cas autrefois. La guerre 73, elle naît du conflit israélo-arabe. D'ailleurs, on l'a appelé ici conflit israélo-palestinien. Le 14 mai, de cette année, que s'est-il passé en Israël ? Oui ?
Les États-Unis.
Oui.
Contre.
Exactement. Bravo. Très bien. Alors, on va vous applaudir aussi. On transférait leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem dans la Liesse. En même temps, dans la bande de Gaza, des Palestiniens nombreux et généralement désarmés s'approchaient du barbelé de la du territoire israélien. 60 d'entre eux ont été tués par des snipers israéliens. Il y a quelques années, ça aurait occupé toute l'actualité dans le monde arabe. Là, bien sûr, il y a eu de très vagues protestations, mais entre les milliers de morts quotidiens au Yémen, les massacres en Syrie et les massacres en Libye, c'est passé inaperçu, ou presque, si vous voulez. Donc, le conflit sunnite chiite, aujourd'hui, avec ses à côté en ici, là, et avec les problèmes par exemple, typiques de la Libye, est en train de changer la donne et de relativiser le conflit israélo-palestinien. D'accord ? Ce qui est un élément évidemment extrêmement important. Donc voilà à peu près les éléments que je voulais vous montrer dans cette heure et 22 minutes. Quand même. Non, mais j'ai eu moins, hein, de 1 h 10 minutes. Une heure et 10 minutes, pas trop grondé. Pour vous donner un petit aperçu des crises en Méditerranée et au Moyen-Orient. D'accord ? Alors, à quoi sert tout ce que je vous ai expliqué ? D'abord, à situer cette région dans le système du monde. À voir comment, à travers les exportations pétrolières, elle va avoir un impact majeur, disproportionné par rapport à son importance géographique, sur l'ensemble du système du monde, parce qu'elle va jouer sur quelque chose de fondamental qui est l'énergie fossile. Aujourd'hui, un certain nombre de transformations qui se produisent dans la région sont aussi dues au fait que le pétrole ne va probablement plus jouer le même rôle qu'autrefois. Pour toutes sortes de raisons, le passage à l'électricité, les voitures électriques, sans pilote, etc. Le fait que les Américains, c'est des choses différentes, les Américains commencent à créer du shale oil et produire du shale oil et shale gas, du gaz et de l'huile de schiste en grande quantité, ce qui fait que désormais le pétrole est surabondant. Donc les prix baissent. Ne parlons pas de la pollution que ça donne en Alaska et ailleurs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance quand le promoteur immobilier qui dirige les États-Unis ne voit que sa propre réélection. Et donc, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que le prix du pétrole va baisser. Donc, les modèles politiques de la région vont se transformer. Regardez en Arabie Saoudite, par exemple, le prince héritier Mohammed Ben Salman a changé la structure du pouvoir, a transformé une monarchie où on passait de frère à frère de 90 ans chacun pour décider très lentement de prendre une décision politique, à un pouvoir héréditaire concentré dans les mains d'un jeune homme de 32 ans qui prend toutes les décisions, pour avoir des décisions en cercle court. En même temps, valorise les aspirations de la jeunesse, essaie de se sortir de la dépendance pétrolière et marginalise les religieux. On ne sait pas où ça va aller, ça peut aller dans plusieurs directions. Mais en tout cas, vous avez un changement là qui est lié à des enjeux qui sont à la fois des enjeux globaux, universels, la question de savoir si le pétrole va avoir une place plus faible dans le mix énergétique de demain, et la nécessité pour des régimes, s'ils veulent rester au pouvoir, d'anticiper cette transition en changeant leur mode de gouvernement. Si les religieux sont marginalisés et moins financés, si le pacte salafiste plus rente ne fonctionne plus, alors ça veut dire que pour les mouvements djihadistes et salafistes, ça fait une source de revenus qui baisse considérablement, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont disparaître du jour au lendemain, mais ils vont être obligés de muter, surtout après que Daesh a été ratatiné. Et autres éléments. Qu'est-ce qui fait que se construit la conflictualité ?
En 73, la carte précédente, sunnite chiite n'a aucune importance. Aucune. Personne n'en parle. On sait qu'il y a des sunnites et des chiites, mais on ne va pas s'étriper les uns. En Irak, par exemple, où vous aviez une majorité chiite et une minorité sunnite, l'Irak, à l'époque laïque ou supposément laïque du parti Ba'ath de Saddam Hussein, les chiites se mariaient avec les sunnites, vivaient ensemble, tout le monde s'en fichait, si je vous me passais l'expression. Aujourd'hui, c'est un clivage majeur. Et un clivage majeur au niveau de l'ensemble de la région. Les conflits entre frères musulmans et salafistes sont devenus aussi énormes, entre frères musulmans et saoudiens. Ça aboutit au blocus du Qatar. La marginalisation du conflit israélo-arabe, qui était l'irritant majeur de la région. Oui. Le fait que des conflits non réglés se traduisent par l'insertion de l'Europe dans cette zone de crise. De quelle manière? À travers, évidemment, le djihadisme, les attentats de 2015-2016 en France, par exemple, mais aussi à travers les flux migratoires, les flèches rouges. Ces flux migratoires ont quelles conséquences pour la situation politique européenne aujourd'hui? Comment? Qui parle? Tu ne vois pas. Qui? Il faut bien que je fasse encore applaudir quelqu'un, non? Vous ne voulez pas le dire? Oui, mademoiselle? Pardon, parlez plus fort. Xénophobie, et puis, d'accord, mais en termes politiques, en termes électoraux, ça se traduit par quoi? La montée de l'extrême droite et parti populiste. C'est-à-dire, vous avez vu que Mme Merkel, par exemple, aujourd'hui, est sur la corde raide parce que, en conséquence de l'accueil qu'elle a fait avec son Wir schaffen das, on va y arriver, en accueillant plus d'un millier de un million de réfugiés syriens et ailleurs, ça s'est traduit par la montée en puissance du parti AfD, Alternative für Deutschland. D'accord ? Ce qui fait qu'elle n'a plus vraiment de majorité. En tout cas, en Italie, tous les migrants arrivant de Libye, illégalement, débarquaient en Italie, ce qui arrivait à passer. Ça s'est traduit par une réaction dans la population italienne qui a abouti aujourd'hui à la coalition étonnante entre l'extrême droite et le parti mélangé d'extrême gauche populiste de 5 étoiles au pouvoir en Italie, qui ont une visée très anti-européenne, nationaliste. Donc, vous voyez comment la question du Moyen-Orient est également quelque chose qui impacte, jusque vous avez compris, par exemple, la pérennité de l'Union européenne. Les élections européennes de 2019 vont s'effectuer sous l'ombre d'une fragmentation qui est due au Brexit, mais qui est aussi due à la montée des partis populistes, plus tous ceux d'Europe du centre, qui, d'Europe médiane, comme on dit aujourd'hui, qui sont très hostiles à l'immigration. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est ça, c'est comment peuvent s'articuler des éléments à la fois de l'histoire universelle, de l'histoire régionale, des éléments religieux dont on pensait qu'ils n'avaient plus aucune importance et qui tout d'un coup deviennent la raison pour laquelle on s'étripe, des changements technologiques, fax, télévision par satellite, réseaux sociaux, qui changent la nature du djihadisme et qui vont lui permettre de s'adapter à la situation, une question sur le pétrole également et sur sa centralité ou non dans le système. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Voilà ce qu'on peut faire en travaillant sur cette région. Voilà les champs que ça ouvre. Et alors, on peut faire ça sur une autre région, sur l'Amérique latine, sur ce qui se passe en Asie aujourd'hui avec le conflit entre la Corée du Nord, du Sud, la Chine, les États-Unis et le Japon, hein, par exemple. On a un champ, un axe de crise absolument fondamental. Mais la crise, le crisis en grec, c'est ce qui permet de discerner. Et justement, les humanités qu'on essaye de vous faire partager, c'est quelque chose qui vous permet de construire votre jugement critique, c'est-à-dire de penser les changements du monde en les situant dans leur contexte. Et à partir de là, de faire de vous non seulement des citoyennes et des citoyens responsables, mais également de contribuer intellectuellement à l'intellection du monde. Et ça, c'est la vocation des CPES et de PSL. Monsieur le Président, c'était dommage à l'institution. Merci de m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux. Et maintenant, je laisse la parole à David.